Voilà, bonjour à chacun, chacune. Vous allez bien ? Bonjour. Il y a de l'écho. Qui connaît Fanny Crosby ? Levez la main. Si c'est une amie à vous. Cette dame, née le 20 mars 1820, il la connaît, Pierre la connaît, il en connaît plus que moi, Pierre. C'est bien. C'est bien. A écrit 8000 chants. 8000 chants chrétiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a été surnommée aux États-Unis la reine des chants gospel. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire de cette femme. À 6 mois, elle a eu une infection dans les yeux qui a été mal soignée et elle est devenue aveugle. Et elle a traversé sa vie 95 ans sans jamais voir la création de Dieu. Mais son cœur a voulu toujours exprimer l'amour pour Dieu. Et elle a écrit dans les 8000 chants, j'en ai sélectionné un. Un particulier. Donc s'il peut, voilà. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour du rang. Parfait repos, parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé, sûr de ton amour. C'est impressionnant, non ? Parfait repos. C'est mon histoire, voilà. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Une femme, on mettrait le qualificatif aujourd'hui d'handicapée, qui était bien plus libre que nous. Une femme qui n'avait un de ses sens, ne fonctionnait pas, la vue, mais qui a su exprimer à son Dieu l'assurance qu'elle avait. Elle a été inspirée par un texte. Ce texte se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 12, s'il peut être affiché. Le prophète Ésaïe dit cela. Il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, la colère s'apaise et me console. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en lui, je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques que dans le monde entier, on les connaisse. Le prophète Ésaïe termine là un chant qu'on appelle le chant du serviteur qui commence au chapitre 5 du livre d'Ésaïe. Et ce qui est intéressant, c'est que pour que nous soyons heureux, il faut que nos circonstances soient bonnes, n'est-ce pas ? Quand on est dans la tristesse, d'habitude, on ne chante pas. Ou on chante des chants tristes. Mais le prophète Ésaïe, lui, découvre ou exprime la délivrance par le Messie. Et Ésaïe anticipe, préfigure, annonce à l'avance ce que sera la prière ou le cantique de louange qui s'élèvera du cœur de ceux qui sont sauvés. Tout le cantique est une célébration. de la grâce dont Dieu a fait preuve envers lui. Mais c'est intéressant que pour exprimer la joie, pour exprimer la paix, c'était mon message il y a 2 semaines, ça veut dire qu'avant il faut réaliser la guerre, l'état de guerre. Et le prophète Ésaïe, avant d'arriver au chapitre 12, a écrit le chapitre 1. Et dans le chapitre 1, il exprime où est le peuple. Et ce matin, j'aimerais que nous prenions conscience. On est à une semaine de Pâques, Pierre l'a dit ce matin. Dans une semaine, il va se passer l'anniversaire, la célébration, la proclamation la plus extraordinaire qui ait jamais été faite. La plus extraordinaire qui ait jamais été faite. Le peuple a été libéré de sa condamnation. Sa condamnation éternelle. Il ne pouvait pas aller vers Dieu. Sauf que le peuple n'avait pas encore compris qui il était. Et parfois, on peut traverser cette vie sans avoir vraiment conscience de l'écart qui nous sépare avec Dieu. Et on ne pourra que mieux célébrer l'éternel que si nous prenons conscience d'où nous venons. N'est-ce pas ? Chapitre 1. Ésaïe rappelle au verset 2 qu'ils se sont éloignés, révoltés contre Dieu. Au verset 4, qu'ils ont abandonné Dieu, qu'ils ont rompu l'alliance. Dieu dit, vous êtes mon peuple, mes enfants. Il y a une alliance qui est faite de la part de Dieu. Et le peuple s'est opposé. Ils l'ont même méprisé. Méprisé. C'est intéressant que quand je réfléchis à ma vie avant Dieu, avant d'être avec Dieu, je méprisais Dieu. Mépriser, c'est ne même pas avoir un regard pour. C'est ne même pas considérer. C'est même déconsidérer Dieu. Pff, mais c'est de la gnognotte. Ça sert à rien. Et on peut faire exactement la même chose avec les gens. Avec ceux qui nous entourent. Les mépriser, c'est les ignorer. C'est ne même pas considérer leur existence. Et j'étais de cela. Plus l'union est profonde, et plus le péché contre cette union est grand. Et le résultat tragique. Mais ils n'ont pas fait que ça. Au verset 3, ils ne connaissent plus leur maître et sont plus stupides que les animaux, nous dit le verset 3. Ils ont pris l'habitude de vivre dans le péché. Ils sont gravement malades dans tout leur être entier. Le verset 10 nous dit même, ils sont coupables plus que les habitants de Sodome et Gomorrhe. Dans les versets 11 à 15, leur culte formalise, parce qu'ils ont un culte, n'est qu'hypocrisie et mensonge. Mais dans les versets 11 à 15, Dieu le refuse. Dans les versets 13, 17, le pays est rempli d'injustice. Dans les versets 21, 29, le pays est rempli d'idoles. Au chapitre 2, dans les versets 11 à 17, les hommes, les femmes sont orgueilleux et insouciants. Mais ça dit, j'ai l'impression que je lis la page d'actualité d'aujourd'hui. BFM Télé était déjà là. Non ? C'est le 21e siècle. On méprise Dieu. On l'abandonne. On ne le connaît même pas. On prend l'habitude de vivre dans le péché et de ne pas en avoir offense. On est malade dans notre être tout entier. Mais on donne un culte à Dieu qui est formaliste. Le texte d'Ésaïe nous rappelle qu'il n'y a pas de paix, pas de relation favorable possible entre Dieu et nous. Si le problème du passif, de notre péché, n'est pas résolu. Si on a, on appelle ça dans un langage courant, des placards. Des placards, ça veut dire on a derrière des choses, derrière nous des choses qui n'ont pas été résolues. Vous savez, des fois, je me rappelle à la maison, on n'avait pas fait le ménage, et d'un seul coup, quelqu'un sonnait à la porte. Alors nous, on avait la chance d'habiter une grande maison, et on entendait maman, garçon, rangement. Et alors là, on rangeait. C'est-à-dire qu'on ouvrait les placards, et boum. Et on rangeait. Mais il fallait pas ouvrir le placard. Interdit. Donc on veillait à ce que quand les gens voulaient ouvrir une porte, ce ne soit pas la porte du placard. Mais dans notre vie, on a des placards comme ça. N'est-ce pas ? Des choses qu'on a cachées. Des choses qu'on ne veut pas faire voir. Je m'en occuperai plus tard. C'est là. C'est là. Mais quand c'est là et que c'est pas réglé, ça ressort. Et la porte du placard s'ouvre, n'est-ce pas ? Et revient. Et Dieu nous demande non pas de faire du rangement, mais du nettoyage. Ce qui est totalement différent. Du nettoyage. C'est-à-dire qu'il veut enlever ces choses du placard. Et c'est ça qu'il a rappelé le prophète Ésaïe au peuple d'Israël et de Juda. Le verset 36 de Jean 3 nous dit ceci. Celui qui met sa foi, sa confiance, sa reconnaissance dans le Fils a la vie éternelle. Mais il y a un mais. Il y a un point virgule qui dit celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si on a encore des placards, la Bible dit que la colère de Dieu est là. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et qu'il a déjà tout donné, tout payé pour que les placards se vident. Pour que tout ce qui est derrière nous soit, une fois pour toutes, payé. Alors revenons à notre chapitre 12. Au verset 1, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et tu diras en ce jour-là, je te loue éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise. La chose la plus extraordinaire, c'est d'apprendre que la colère de Dieu s'apaise. Quand on reconnaît notre faute. Quand nous reconnaissons qui nous sommes. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait un Dieu menteur. Fait un Dieu menteur. Dieu, si nous n'avons pas de péché, Dieu a donc donné son Fils pour rien. Pour rien. Et donc Dieu est un menteur, il a inventé une histoire, il a dit voilà, il faut que je paye pour le péché du monde, mais il n'y a pas de péché. Personne n'est pécheur. La Bible dit hein, que Dieu regarde le monde pour voir si quelqu'un est juste, il dit j'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun. Dieu t'apaise. Pas de paix. Pas de relation favorable, pas d'apaisement, d'irritation apaisée, sans l'offrande de Jésus-Christ. Celui qui met sa foi, celui qui reconnaît. On a du mal dans notre relation avec Dieu à croire que voilà, on va arriver avec nos péchés, nos fautes, nos manquements, notre vie passée. Mais on ne va pas en parler. On va être, voilà, salut Dieu, ça va ? J'arrive, heureusement tu me prends, il me prend quelqu'un dans ton équipe, me voilà. Non. Pour rentrer dans l'équipe de Dieu, il y a la première des choses. C'est apaiser la colère de Dieu, c'est dire, Seigneur, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi que tu es hérité. C'est à cause de mes fautes, c'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mon manquement. Je te loue. On dira en ce temps-là, même si tu as été en colère, irrité, te voilà apaisé. Et il va plus loin dans le verset 1, il dit, tu m'as, non seulement ta colère s'est apaisée, mais regardez bien, il dit, tu m'as consolé. Tu m'as consolé. Dieu est irrité et il me console. Dieu est irrité et moi, il me console. Il me rassure. Il dit, oui, je suis en colère avec toi. Mais je t'aime. Mais je t'aime. Ah. Ça vous est déjà arrivé de venir devant quelqu'un à qui vous avez fait beaucoup de mal, à qui vous avez fait une crasse, et alors que vous avez pris la résolution d'aller le voir, d'admettre, de dire, il faut qu'on se voit. J'ai un truc à te dire. Et que la personne nous dise, je sais ce que tu vas me dire. Je sais. Mais tu sais quoi? Je te pardonne. Je te pardonne. Israël, par le prophète Ésaïe, découvre non seulement que Dieu n'est pas irrité, son irritation a été apaisée, mais qu'en plus il apporte la consolation. Parce que nous étions séparés. La cause de l'irritation de Dieu, les effets de l'irritation de Dieu nous séparent, nous rendent sans citoyenneté, en route pour la place que Dieu a réservée pour le diable et ceux qui vont le suivre, selon Matthieu 25. Israël se réjouit non seulement de l'apaisement, mais de la consolation. La paix avec Dieu est établie. Il n'y a plus d'obstacle à ce que le peuple soit l'objet de sa grande tendresse. La consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu est essentiellement l'effet, le produit de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Vous le savez, ça? De l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. C'est Jésus qui le dit. Dans Jean 16, 8, il dit, je dois m'en aller parce que le Saint-Esprit doit venir, et quand il sera venu, verset 8, il convaincra le monde de quoi? En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Et au verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a donné les moyens de reconnaître notre péché. Et déjà, l'Esprit travaille dans nos vies pour nous convaincre. Mais d'un autre côté, il y a l'autre agent qui dit, mais non, regarde, tout le monde le fait. T'es pas différent, tout le monde le fait. Apaisement, consolation, Esprit Saint. Regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Si on peut revenir sur le verset 2. Ésaïe 12, 2. Vous les cieux, écoutez, terre. Oui, Dieu est mon sauveur, voilà. Je me confie en lui, je n'ai plus de crainte, car l'Éternel, je vais y revenir, l'Éternel est ma force, il est le sujet de mon chant. Ce qui est intéressant, là, il y a deux fois l'Éternel. Des fois, on a l'impression hein, que les écrivains bibliques, ils manquent de mots. Alors, ils répètent deux fois. On se dit, ils voulaient marquer le coup, alors, vous savez, ils réfléchissaient, vous savez, des fois, vous êtes en train de parler, et puis vous arrêtez. Mais non. Le texte, il dit, là, il utilise deux mots en fait. Nous, on a traduit un. Il dit, l'Éternel, ici, c'est Yah, en hébreu. Yah, en hébreu, c'est celui qui est. Et là, c'est marqué l'Éternel, Yahweh, celui qui ne change pas. Celui qui est là. Celui qui ne change pas est ma force. C'est lui ma force. Il est non seulement ma force, mais il est ma confiance. Il est mon assurance. La paix avec Dieu a été établie. Et Israël peut célébrer la paix. Mais cette paix, elle donne de la force, de la confiance et de l'assurance. Est-ce que vous avez déjà exprimé cette paix ? Le mot paix, il ne va pas tellement avec force. Quand on parle à la paix, on voit tout est calme, n'est-ce pas ? Ah, ici j'ai la paix. C'est ça qu'on dit, hein ? Quand les enfants sont pas là. Non, c'est pas vrai. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le texte ici nous parle de paix, mais il nous parle de force, de confiance et d'assurance. Jésus dit, vous recevrez l'Esprit Saint et vous recevrez une force. Il sera avec vous. Dieu se révèle alors que nous, non seulement il vient à nous comme sauveur du passé, mais en plus il vient comme celui du présent, celui qui est et celui qui ne change pas. Face à toute situation, face à tout problème, Dieu devient d'un seul coup ma paix, ma force, ma confiance, mon assurance. Aujourd'hui, on n'est pas tellement confiant, n'est-ce pas ? On appréhende. Vous savez que dans notre pays de France, on est les plus gros vendeurs d'anti-anxiolytiques. Hein, les gens qui s'inquiètent. Il faut les rassurer. Tout va bien. Tout va bien et tout va aller bien. Moi, quand je lis la Bible, je dis tout va mal et tout va continuer d'aller mal. Mais Dieu est là. Et Dieu nous aide à surmonter. Paul a repris dans Romains 8, 31. Un verset, il a dit, « Que dirons-nous donc à ce sujet ?» Il parle du salut. Et il dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si Dieu est pour moi, alors je peux être tranquille. Je peux être tranquille. Je peux être confiant. Dieu s'occupe de mes affaires. Dieu s'occupe de mes affaires. Dieu sait de quoi demain sera là. Pour vous donner une image, quand on est dans la circulation, ceux qui ont une voiture, maintenant on a nos GPS qui nous disent « Tu vas arriver dans 40 minutes. » C'est tout bien. Moi, j'imagine que Dieu, c'est notre Dieu, il a un hélicoptère. Et partout où on est, il a la situation bien en main. Il sait exactement par quelle sortie je dois passer, par quel chemin, par quelle route. Et souvent, c'est des routes que je ne connais pas, mais que lui connaît. Parce qu'il a la vue sur ma vie. Il sait ce qui sera, ce qui est présent, ce qui est futur. Il sait où va y avoir les dangers. Et notre Dieu est là. Force, confiance, assurance. Que dirons-nous donc si Dieu est pour nous ? Qui sera contre nous ? Puis regardez le verset 3. Si on revient, je vais faire un peu de la gymnastique à notre technicien. Voilà. Il dit... Le bœuf, oh là, Ésaïe 12, je vais prendre dans ma Bible, voilà, 12-3, C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Dans les Écritures, l'eau est souvent un symbole de salut. Jésus l'emploie quand ? Vous vous rappelez ? Dans Jean 4, versets 10 à 14, il va voir cette femme au puits. Et il dit à cette femme, je veux boire. La femme dit, attends. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. Et une fois qu'on boit cette eau vive, on n'a plus jamais soif. La partie qui est là dans le prophète Ésaïe, c'est que quelque part nous sommes exhortés, encouragés à aller nous désaltérer du salut de Dieu. Ce salut qui nous rafraîchit. Ce salut qui nous permet d'être en paix. De ne plus nous battre. De ne plus craindre les événements. Mais de prier. Que Dieu nous donne la bonne attitude. Les bons moyens. Dieu, par son prophète, invite son peuple à partager une eau meilleure. Vous savez qu'à cette époque-là, on pouvait aller chercher de l'eau partout. Mais Dieu nous dit, ne prends pas cette eau polluée qu'on te donne, mais prends de l'eau vive. Prends de l'eau vive. Nous nous désaltérons avec des choses qui ne nous désaltèrent pas. Nous avons des expédients, des choses rapides. Mais Dieu nous offre l'eau de la vie. Dieu nous offre sa présence, son pardon, sa paix, sa parole. Pour que nous soyons désaltéré une fois pour toutes. Et il nous invite. Il invite le peuple. Dans Ésaïe 55, par trois fois, il va dire, venez. Venez, vous tous qui avez soif. C'est le verset 1 d'Ésaïe 55. Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Dieu a déjà tout payé. Dieu a déjà tout payé, mais il y a une invitation. Venez, vous qui avez soif. Vous savez que les personnes âgées font leur rappeler qu'elles ont soif. S'il y en a qui travaillent avec les personnes âgées, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut leur rappeler. Mémé, pépé, t'as soif? Non? Si? Je vais te donner de l'eau. Parce qu'instinctivement, il ne va pas le faire. Mais la chose extraordinaire, c'est que Dieu nous a donné dans notre cœur une soif. Un trou à remplir. Un trou à combler. Et pour ça, il dit, venez. Venez. Parce que Dieu est prêt à nous donner cette eau. Ce puits, comme cette femme qui est venue au puits. Venez. Le salut est prêt à être donné. Le salut est rafraîchissant, purificateur, comme l'eau. Dieu est aussi prêt à nous donner la joie par le vin, de la nourriture par le lait. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire. J'ai marqué là, le salut est pour ceux qui ont soif. Le salut est pour ceux qui ont soif, qui découvrent qu'ils sont asséchés, qu'ils ont besoin de quelque chose. Dieu montre que le salut est absolument gratuit pour nous, mais pas pour lui. Nous savons que le salut, aujourd'hui, ne coûte rien. Parce que Dieu a déjà tout payé. Et puis versets 4 à 6. Dieu dit alors, soyez mes témoins. Si on peut avancer, voilà. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez, regardez bien, annoncez aux nations ses œuvres. pas ses paroles, ses œuvres. Montrez que dans votre vie, il a agi. Montrez que dans votre vie, il a agi. Il a fait une œuvre merveilleuse dans votre vie. Il a changé votre mort en vie. Il a pris vos péchés pour vous en libérer. Il vous a donné la paix alors que vous étiez en guerre. Il vous a donné de la force alors que vous étiez faible. Et c'est ça que Dieu veut que nous partagions, mes amis. Le message de l'évangile, c'est résumer ce que Jésus a fait et montrer ce qu'il a été capable de faire dans ma vie. J'étais un homme comme les autres, Paul dit. J'étais comme eux, sans citoyenneté. Et Dieu m'a offert sur la croix accès à l'héritage. Soyez témoins. Israël a fait expérience de la grâce de Dieu. Il est à même maintenant de jouer le rôle essentiel de témoin de sa grâce, de ses œuvres que Dieu veut que nous proclamions. Actes chapitre 1, verset 8. J'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est son œuvre. Mais une autre œuvre qui lui est donnée, acte 1, 8. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À Vigneux-sur-Seine, dans les Saônes, en France et ailleurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons. Alors que nous sommes sauvés, si nous réalisons vraiment ce que Dieu a fait dans notre vie, alors d'un seul coup, notre vie devient un chant. Devient un chant. Voilà pourquoi je suis en paix. Voilà pourquoi j'ai de l'assurance. Voilà pourquoi j'ai envie de partager avec toi, mon ami, mon voisin, mon époux, mon enfant, mon employeur, mon employé, mon collègue. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'il l'a fait aussi pour toi. Mais voyez que pour arriver là, il faut d'abord avoir été chercher l'eau. Que pour avoir été chercher l'eau, il faut déjà réaliser que j'ai soif. Et cette soif, c'est l'Esprit Saint qui la met en moi. Va chercher de l'eau. Mais non. Mais non. Vous savez, quand j'étais jeune chauffeur, il y avait une chose que je n'aimais pas faire. C'était m'arrêter à la station-service. Faire le plein. Alors, je roulais toujours jusqu'à la prochaine station. Et ma femme, au début, quand elle est venue dans ma vie, à chaque fois, elle me disait, t'as plus d'essence. Oui, mais on va aller jusqu'à la prochaine. On va aller jusqu'à... On va pousser. Et finalement, j'ai appris qu'il vaut mieux avoir de l'essence dans sa voiture pour rouler bien. Et pour ne pas abîmer la voiture en plus. Ben c'est un peu ça avec la vie de avec Dieu. C'est d'aller chercher vers Dieu de quoi nous avons besoin tous les jours pour pouvoir avancer. Parce que si on ne va pas chercher auprès de Dieu ce qui est nécessaire, alors on va avoir des problèmes dans notre vie. Et si j'ai commencé avec ce chant, mes amis, c'est parce que j'ai trouvé que cette femme, bien qu'handicapée, aveugle, à exprimer la chose la plus extraordinaire qu'il puisse dire. C'est que c'est pas ses sens qui pouvaient lui donner la paix. Mais que la paix, c'était Dieu qui lui donnait. Et que tout ce qu'il faisait, il le faisait avec sa volonté. Est-ce que notre Dieu est apaisé envers nous? Bien avant le prophète Ésaïe, dans le livre de l'Exode, au chapitre 15 et au verset 2, le premier chant. Le Seigneur Yah est ma force et ma puissance, il a été pour moi le salut. C'est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. C'est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le Seigneur est un guerrier, son nom c'est le Seigneur Yahweh. Voilà l'origine du prophète Ésaïe. dans l'Exode au chapitre 15. Et puis l'apôtre Paul, il va de sa plume aussi dans Éphésiens 1, à partir du verset 3. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le rachat par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers. C'est un peu long, mais il faut le texte. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange. Vous aussi, après avoir entendu, vous avez cru. Et comme cette dame Fanny Crosby, est-ce que vous pouvez dire ce matin, j'ai l'assurance de mon salut. C'est là mon chant. C'est ça le chant, hein, il dit. J'ai l'assurance de mon salut. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Est-ce que nous sommes connus pour être des proclamateurs de la parole? Mais moi, ce matin, j'aimerais inviter. Je sais que je fais des invitations très fréquentes. Et peut-être vous dites, toi, ça revient souvent. Mais pourquoi ça revient souvent? Parce que je ne sais pas si je vous reverrai demain. D'abord, je ne sais pas si moi je serai là. Je ne sais pas non plus si vous, vous serez là. Et le jour du salut, c'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pour ça que je fais des invitations. Parce que le jour du salut, c'est maintenant. Alors moi, j'aimerais savoir ce matin. J'aimerais au moins vous inviter. On a une semaine de Pâques. Dans une semaine, on va célébrer la plus grande fête chrétienne. La plus grande fête chrétienne, la résurrection du Christ. La porte ouverte vers le ciel. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre dimanche prochain pour aller rencontrer Dieu. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on remette les paroles du chant. Si c'est possible, techniquement, voilà. On relit le texte ensemble. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Vous comprenez le texte? J'ai l'assurance de mon salut. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Voilà, mais j'aimerais qu'on reste sur le premier. Merci, en tout cas. C'est ça qui est important. Si vous ne pouvez pas chanter ça dans votre cœur, alors mes amis, c'est que le diable vous contraint, mais la grâce de Dieu vous appelle. Et le Saint-Esprit parle à nos cœurs là, ce matin. Il dit, tu n'as pas cette place, tu n'as pas cette assurance. Tu as soif, tu as soif, vas-y. Alors on va faire quelque chose d'habitude. Voilà, quand on fait l'appel, on ferme les yeux, Et puis des frères, des sœurs lèvent la main et je prie pour eux. Mais ce matin, on va faire une chose un peu différente, qui va vous demander un petit peu de courage. Parce que quand on se décide pour Christ, on ne se décide pas dans le secret, dans la cachette, dans notre coin. Mais on le fait publiquement, avec les frères et sœurs. Parce que Jésus est mort publiquement. Et quand il m'appelle publiquement. Alors, c'est vrai, là, on va baisser la tête. Et on va prier. Et là, il y a le Saint-Esprit qui tape à nos cœurs. Et qui dit, t'as jamais réglé tes placards. Il y a des portes, il ne faut pas que tu les ouvres. C'est des trucs qui ne sont pas gérés dans ta vie. Et puis même, t'as jamais vraiment fait la paix avec Dieu. Tu ne sais pas si Dieu est en colère avec toi. Et moi, j'aimerais juste te demander, sans qu'on regarde à droite, à gauche, et à ceux et celles qui se sont interpellés ce matin, qui se disent j'aimerais que Dieu ne soit plus apaisé contre moi, j'aimerais que tout ce qu'il a fait pour moi puisse prendre une vraie place, j'aimerais recevoir cette paix, cette force, cette assurance dans ma vie une fois pour toutes. Et pour ça, la prière, elle est là. L'exclamation, elle est là. J'ai l'assurance de mon salut. Mais moi, j'aimerais que ceux, ce matin, qui voudraient le proclamer, mais ils ne restent pas assis, mais qu'ils se lèvent. Que dans leur cœur, ils puissent dire ceci. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus dans ma vie. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré, transformé, modifié. Alors voilà, pendant qu'on garde nos yeux fermés, pour ceux qui ont déjà fait ce pas, moi je m'adresse à ceux qui ne l'ont jamais fait. À ceux qui voudraient marquer cette journée d'une croix blanche. D'une croix toute particulière. Qu'ils puissent dire au diable, ça suffit. Je me lève pour Christ. Parce que j'ai cette assurance. Parce que le texte ce matin me l'a dit. Je veux, comme Israël, chanter. Que ça soit mon chant. Que ça soit ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait, là où il est, prendre son courage et dire, ouais, Seigneur Jésus, tu as payé pour moi. Et Seigneur Jésus, j'aimerais te le dire, que j'ai cette assurance parce que c'est toi qui me la donnes. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait faire ce pas? C'est un pas de courage. C'est pas juste lever la main, voilà. Que Dieu te bénisse. C'est difficile. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait ce matin confesser publiquement, j'ai l'assurance. C'est une journée extraordinaire, mes amis. C'est une journée où il y a de la joie dans le ciel. Parce qu'à chaque fois qu'un pécheur se tourne vers Dieu, la Bible dit qu'il y a une grande journée de fête au ciel. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors, vous demandez un autre acte de courage à nos deux sœurs de venir là, devant. Pas de rester à leur place. Vous avez déjà fait l'effort de vous lever. Je vais vous demander de venir. Parce que le peuple de Dieu accueille des enfants. Et on va prier. Ça serait pas possible de le chanter après celui-là chant. Voilà. Ah Pierre, viens. Eh bien Seigneur Jésus, nous voulons nous réjouir ce matin. Nous réjouir de ce que tu as touché le cœur de deux amis elles repartent aujourd'hui avec cette magnifique assurance que tu es leur salut, que tu es présent dans leur vie, que non seulement tu les as rachetées, mais que tu les as régénérées. Seigneur Jésus, sois béni. Qu'en cette journée, Seigneur, il y a une grande journée de joie au ciel. Et qu'aujourd'hui, à Vigneux, derrière l'émotion, Seigneur, il y a aussi de la joie. Parce que tu continues à travailler et que tu vas encore le faire par ta parole, qu'elle ne revient jamais, jamais sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on peut les applaudir, mes amis.